Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Je suis Quinta Archie.
C'est parti. À l'occasion de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre qui oppose les démocrates Joe Biden et Donald Trump, le président républicain sortant, on se penche sur le ticket Joe Biden-Kamala Harris et on revient sur le parcours de cette dernière.
As a young district attorney, I walked into the courtroom for the first time and said the five words that would guide my life's work. Kamala Harris. For the people.
D'où vient-elle? Qui est-elle? Quelle est sa famille politique? Et surtout, comment négocier sa place quand on est une femme politique racisée? On va en parler avec Kautar. Salut!
Salut! Alors, effectivement, peut-être que l'on pourrait essayer par contextualiser les choses pour essayer de comprendre ce qu'il se passe du côté des États-Unis. Donc, bien qu'on ait le sentiment que Donald Trump s'agite sur la scène mondiale depuis très longtemps, voire trop longtemps, au vrai, élu président des États-Unis en janvier 2017, le voilà qui aimant tant le métier, retente sa chance pour un nouveau mandat. Dans cette course à la présidence, Donald Trump a croisé sur son chemin un homme qui est Joe Biden et Kamala Harris. Kamala Harris qui nous intéresse ici en particulier car en cas d'échec de Donald Trump et donc de victoire de Joe Biden, elle deviendrait alors sa vice-présidente. On peine à deviner la manière dont les choses vont se dérouler, tellement l'actualité est actuellement des plus imprévisibles. Simplement, on pourrait essayer de comprendre un peu plus quelle est la place de cette fameuse Kamala Harris dans cette course à la présidence. Donald Trump potentiellement va contester l'élection à cause notamment des nombreux votes par la poste. Il pourrait donc y avoir un très long recompte, ce qui ferait peser une sorte de doute sur l'issue de cette élection. Donald Trump a notamment développé l'idée selon laquelle il pourrait avancer l'argument de la fraude, puisqu'il y en a déjà eu de la part des républicains en Californie, qui ont notamment installé des fausses boîtes pour voter.
This is going to be a fraud like you've never seen.
Comme vous pouvez le constater, les choses sont particulièrement tendues et la présence de Kamala Harris dans cette course-là peut venir éclairer quelque peu les enjeux politiques que traversent actuellement les États-Unis. En attendant, les regards sont plus que jamais braqués sur cette femme que certains ont déjà nommée l'Obama Girls.
Oui, ce qui est quand même une formulation assez problématique hein, de comparer une femme à un homme. Hein. Encore une fois, merci les médias. Et alors, Kamala Harris, elle-même avait, lors d'une de ses campagnes, mis en ligne un petit clip dans lequel des enfants expliquaient comment bien prononcer son nom sans être raciste. On écoute.
It's not Kamala. It's not Kamala. It's not Kamala.
It's Kamala.
Kamala Harris.
Donc Kamala Harris a 55 ans et sa condition sociale est d'être une femme doublement racisée puisqu'elle est à la fois d'origine afro-américaine et sud-asiatique et elle a souvent été la première femme noire ou biraciale élue à des postes importants. Alors, pour revenir un peu sur sa généalogie, ses parents étaient profs, chercheurs, sa mère était originaire d'Inde et son père de Jamaïque et Kamala Harris fait souvent ce récit de ses origines. Elle aurait participé à des manifestations en poussette avec ses parents.
And that's how they met as students in the streets of Oakland, marching and shouting for this thing called justice.
Qui s'étaient rencontrés à l'université et donc elle aurait eu une enfance militante. D'ailleurs, le QG des Black Panthers était vraiment à côté de la maison à Oakland, donc en Californie où vivait la famille. Les parents ont ensuite divorcé. Kamala Harris a fréquenté une école blanche grâce au processus d'intégration qui a eu lieu dans les années 70. Et donc la mère, Kamala et sa sœur ont déménagé. Elles ont vécu à Montréal. Ensuite, la jeune femme a été à l'université historique noire de Howard, et non pas de Harvard, et elle a ensuite été diplômée en droit. Donc, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une personnalité d'origine populaire, puisqu'elle vient plutôt de l'élite intellectuelle. D'ailleurs, elle a été membre d'une sororité noire à l'université très bourgeoise, qui lui a vraiment fait un réseau pour la suite de sa carrière.
Donc on voit bien que la trajectoire ici de Kamala Harris, elle est particulièrement éclairante pour comprendre la manière dont elle a pu un jour se retrouver aux côtés de Joe Biden. Si on revient un peu plus sur la trajectoire qui est la sienne, on peut rappeler qu'elle a notamment été procureure générale à San Francisco. C'est donc un poste particulièrement important qu'elle a occupé. Elle était au départ missionnée pour juger les crimes sexuels.
And the thing about predators, you should know, is that they prey on the vulnerable. They prey on those who they do not believe are strong. Predators are cowards.
On aurait a priori plutôt eu tendance à cette période-là à la considérer comme étant plutôt à gauche. Elle a tenu des propos sur les prostituées qui visaient plutôt à les considérer comme des victimes et non pas comme des criminels. On lui doit aussi des processus d'incarcération de masse contre les pauvres et les personnes racisées. Donc on voit bien que tout d'un coup, son positionnement se fait beaucoup plus droitier et beaucoup plus répressif. La question des gangs, la question des drogues, la question encore une fois des abus sexuels, elle a progressivement bâti l'image d'une femme assez redoutable, au jugement assez impartial. On a pu notamment dire d'elle, ou en tout cas la surnommer Kamala Cop, c'est-à-dire remettre en avant la dimension policière de son discours et de ses pratiques et de ses positions politiques. On peut souligner aussi, et ça vient, pourrait dire, compliquer encore un peu plus cette espèce de portrait idéologique qu'on pourrait tenter de dresser d'elle, puisqu'elle s'est notamment positionnée contre la peine de mort lorsqu'un policier a été tué. C'est resté dans l'imaginaire et dans la mémoire des luttes comme une décision problématique pendant très longtemps, décision qui lui a été fortement reprochée par un certain nombre à la fois de leaders politiques et de groupes militants. Kamala Harris, on peut rajouter aussi qu'elle est élue sénatrice de Californie la même année que Trump, en 2016. Elle a notamment commencé à se faire remarquer lors des auditions au Sénat. Elle a notamment été d'une dureté assez manifeste envers le juge de la Cour suprême, Brett Kavanaugh. Elle l'a fait pleurer, c'est quelque chose qui est encore une fois resté dans les imaginaires et surtout dans l'instant télévisuel que cela a produit.
Have you discussed Mueller or his investigation with anyone at Cassowitz, Benson and Torres, the law firm founded by Mark Cassowitz, President Trump's personal lawyer? Be sure about your answer, sir.
Oui, donc il s'agissait des auditions pour la nomination du juge à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, qui était accusé par une ancienne camarade de classe, Christine Blasey Ford.
So I need to be correct as best I can.
I do want you to be honest.
And I'm not able to be rushed this fast. It makes me nervous.
Et elle a été notamment remarquée aussi toujours par rapport à sa dureté, mais cette fois-ci par rapport à la question familiale et notamment par rapport à la question de la répression des parents à l'égard des enfants qui ne suivaient pas leur scolarité avec attention et régularité. Donc on voit bien ici que, comme je le disais, le portrait politique et idéologique de Kamala Harris, il est assez complexe à dresser de manière uniquement univoque. Et notamment en raison, on pourrait l'expliquer ainsi, du contexte des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir par rapport auxquels elle a dû individuellement se situer. Donc on voit bien dans sa carrière ici à quel point se rencontre, se chevauche à la fois la nécessité de se faire reconnaître comme une femme politique légitime et la manière dont cette légitimité, elle tend souvent du côté de la droite et du côté des politiques répressives, pour ne pas dire stigmatisantes, à l'endroit des populations les plus fragiles.
Oui, en fait, elle a défendu ce qu'on appelle en anglais un truancy program, c'est-à-dire donc ce programme pour remettre les enfants à l'école, en disant que les enfants issus de minorités ou de classes populaires décrochaient souvent et que elle y voyait l'explication d'une entrée dans la criminalité et dans les prisons. Et donc voilà, elle a dit pour faire baisser la criminalité, il faut que tous les enfants reçoivent une éducation et aillent à l'école. Alors aujourd'hui, on reproche parfois à Kamala Harris d'être restée proche de la police avec son passé de procureur et de sénatrice. En même temps, elle défend son programme et ses acquis en disant qu'elle sait travailler avec eux et avec elles. Donald Trump la qualifie de « angry », de « nasty », donc de « méchante », de « mauvaise femme ». Pour d'autres, tu l'as dit, c'est la Obama au féminin. D'ailleurs, Barack Obama avait dit que c'était l'une des plus belles femmes politiques il y a quelques années. Il a dû ensuite s'excuser. En tout cas, Joe Biden a sous-entendu de son côté qu'il ne se représenterait pas puisqu'il est âgé. Et son élection, si elle arrive, serait une manière d'ouvrir la voie peut-être à Kamala Harris. S'il s'avère qu'elle prend de l'importance en tant que vice-présidente, puisque tous les vice-présidents ne deviennent pas automatiquement présidents, et si le Congrès laisse les démocrates gouverner, ce qui n'est pas non plus gagné. Voilà, tout ça, c'est beaucoup d'incertitudes. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle fait face, comme d'autres femmes racisées en politique, à certains stéréotypes. D'ailleurs, après le débat qui a eu lieu entre les deux candidats à la vice-présidence, un analyste politique états-unien, Frank Lutz, a réuni un focus group, donc voilà, un groupe de 13 votants et votantes indécis sur Zoom, dont 9 étaient des hommes. Il et elle ont décrit Mike Pence comme étant, je cite, « présidentiable et calme », et Kamala Harris comme étant, je cite, « fausse, abrasive et rigide ».
The vice president said, when asked, well, why didn't y'all tell anybody? He said, because the president wanted people to remain calm.
Well, let's get
Mr. Vice President, I'm speaking.
I'm speaking.
12 participants sur 13 ont déclaré que Mike Pence avait gagné ce débat. Alors évidemment, quand on entend le terme, l'expression agressif, il faut toujours avoir une petite alarme qui s'éveille dans notre cerveau puisqu'on sait qu'on parle d'une femme noire à demi-mot. Ce sont souvent des codes racistes. Et d'ailleurs, à l'inverse, on a aussi pu reprocher à Kamala Harris de ne pas être assez noire ou bien d'en jouer lorsque ça l'arrange pour avoir accès au vote de cette communauté.
On voit avec ces quelques éléments ici présentés à quel point la position de Kamala Harris est plus que jamais ambivalente. Elle doit donc gérer, comme tu le disais, Clémentine, la force et la violence de la misogynie noire. Donc cette rencontre entre un sexisme et un racisme qui touche particulièrement les femmes africaines américaines, mais elle doit aussi composer avec le fait qu'elle serait originaire du sud asiatique et qu'elle devrait de cette manière-là se soumettre à cette injonction d'une minoritaire modèle comme la communauté asiatique a malheureusement l'habitude d'y être confrontée. Donc on voit bien ici une forme d'entrechoquement entre d'une part ces différentes trajectoire parentale et la manière dont elle-même en paye d'une certaine manière le prix.
I feel a sense of responsibility to stand up and fight for the best of who we are. And I'm prepared to fight and I know how to fight.
Les républicains, comme ça a été notamment le cas pour Barack Obama à l'époque, accusent assez régulièrement Kamala Harris d'être une étrangère qui aurait maquillé sa carrière pour prendre le pouvoir en douce. Elle est donc là assez souvent confrontée à des procès en légitimité. On l'accuse aussi d'être malhonnête, on l'accuse aussi, et c'est assez courant malheureusement dans ce type de situation, d'avoir volontairement sexualisé sa pratique politique au point même de coucher pour réussir. Elle a eu notamment une liaison avec le maire de San Francisco, Willie Brown, et on aura vite fait de considérer qu'il n'aura été là question uniquement que de manipulation, de tactique et de basse stratégie féminine. Donc on voit bien à quel point très rapidement la position de Kamala Harris, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est noire, dans les États-Unis et que les États-Unis ont une histoire très particulière avec cette population-là, à quel point elle porte sur ses épaules des tensions qui la dépassent, mais en même temps des tensions qu'elle fait largement entrer dans son propre jeu et dans son propre positionnement politique.
Oui, on a pu voir ses détracteurs et ses détractrices publier des mèmes sur Internet qui disent « coucher pour réussir avec Harris » et l'appeler « heels up Harris », donc Harris, les jambes en l'air, les pieds en l'air. Et on voit à quel point, lors de ses interventions télévisées et lors des débats, son visage est scruté et les expressions de son visage sont interprétées. Quoi qu'elle fasse, en fait, elles sont toujours interprétées à son désespoir. Avantages. Voilà, pour revenir un petit peu sur son parcours politique, lors de la primaire démocrate, elle a été à un moment bien placée, puis elle a fini par être distancée et par abandonnée.
So, to you my supporters, my dear supporters, it is with deep regret
but also with deep gratitude that I am suspending our campaign today.
Lors de cette course, on l'a opposée évidemment à d'autres femmes démocrates comme Amy Klobuchar, qui a eu une histoire malheureuse avec l'un de ses assistants et elle a fini par manger son repas avec un peigne, ce qui a nuit malheureusement à sa campagne. On l'a aussi opposée à Elizabeth Warren, qui est plus solide sur les questions économiques mais aussi plus radicale à gauche. Alors évidemment, l'aile gauche du parti voulait plutôt Bernie Sanders et les modérés plutôt Joe Biden, mais les démocrates et différents groupes militants ont vraiment souligné l'importance de l'électorat des femmes noires qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans ces élections et insisté pour qu'elle soit nommée vice-présidente. Donc on a ce ticket, c'est comme ça qu'on appelle un duo politique pour l'élection. Alors pendant les primaires, elle s'est souvent positionnée plus à gauche que Joe Biden, qu'elle a d'ailleurs attaqué sur la question du racisme. Depuis, elle a été obligée de se modérer, de mettre de l'eau dans son vin, mais elle reste quand même une femme du milieu, comme lui, homme du milieu. Et le risque dans cette élection, c'est aussi sans doute de perdre une partie de l'électorat urbain qui se situe plus à gauche. Néanmoins, on peut quand même souligner qu'il s'agit du premier duo présidentiel qui n'est pas diplômé d'une Ivy League, donc d'une très grande université. Joe Biden a lui-même répété inlassablement ce discours, ce récit qu'il fait sur lui-même. Il se surnomme Amtrak Joe, c'est-à-dire qu'il prenait le train pendant des années pour aller travailler à Washington comme un homme normal et qu'il est lui-même issu de la classe moyenne irlandaise. Moi, j'aime bien, à titre personnel, qu'il se présente comme étant le mari de Jill Biden, donc sa femme qui est prof et qui, si lui est élu, sera appelé à jouer un rôle en tant que première dame, sans doute plus important que celui de Melania Trump, qui était quand même très effacée jusqu'ici.
Effectivement, et sur les enjeux politiques actuels, on pourra et vous pourrez lire de très nombreuses analyse qui tente de redonner du sens et de la cohérence à tous ces événements. En particulier, j'aimerais revenir sur les propos du politiste Gilles Vandal, qui, à propos de ce qui est en train de se passer, note, toujours au sujet de Kamala Harris, provenant de minorités raciales, Kamala Harris permet à Biden d'afficher une authenticité dans son engagement quant à la promotion des droits des femmes et l'inauguration d'une nouvelle ère de la justice raciale. Avec le choix de Harris, une candidate modérée, il rassure les électeurs américains par rapport à ses véritables intentions pour ce qui est de faire avancer la société américaine dans une voie progressive, et cela sans la précipiter dans une révolution hasardeuse. On voit bien ici à quel point le rôle de Kamala Harris auprès de Joe Biden est important au regard, comme le dit le politiste, des possibilités d'inflexion des politiques très fortes, très rudes, très radicales, très extrêmes qui ont été menées jusqu'à présent par Donald Trump. Donc sa fonction, elle est précisément là, dans le fait d'incarner avec Joe Biden une sorte de nouvelle Amérique qui reviendrait sur les années précédentes faites d'injures, faites de violences, faites de discrimination et de scandales.
Oui, pour autant, certains électeurs et certaines électrices ne sont pas dupes non plus. D'ailleurs, on vous renvoie à un article qui a été publié dans le magazine Beach, vous pourrez le retrouver dans le descriptif de l'épisode, qui raconte que certaines personnes de confession musulmane savent qu'elles ne seront pas forcément mieux défendues par les démocrates et que voilà, c'est parfois un engagement de façade, même si, bien évidemment, ça ne pourra pas être pire que la présidence de Donald Trump. Mais voilà, en tout cas, il peut y avoir une certaine ambivalence de la part de certains votants, de certaines votantes. Quoi qu'il en soit, en 2020, la pandémie a évidemment bouleversé le programme politique des candidats et des candidates. Les deux démocrates ont prévu de soutenir les emplois, de payer également les soins médicaux pour les malades du Covid. Le programme des Républicains, quant à lui, est basé sur la relance de l'économie principalement, et celui des démocrates donne la priorité donc à la santé, à l'environnement et à la question des violences policières envers les Noirs.
Il est plus que jamais difficile, on pourrait dire, de se faire une idée claire sur l'issue de l'élection, tant, comme on le disait auparavant, les enjeux politiques internes, ce qui est susceptible de se passer sur la scène mondiale, et en particulier la violence de la pandémie, participent à rendre les choses assez difficilement lisibles. Néanmoins, aux États-Unis, un certain nombre d'instituts de sondage ont pu réaliser des études et des enquêtes pour tenter de sonder quelque peu l'état actuel des choses. On pourrait rappeler que pour remporter l'élection présidentielle aux États-Unis, il faut acquérir le soutien de 270 grands électeurs.
Oui, ce n'est pas que le vote populaire qui compte. Voilà.
Exactement. Le vote populaire n'est pas ici suffisant. Pour l'heure, les sondages créditent Joe Biden d'une probable victoire puisqu'on lui accorde le vote d'environ 250 grands électeurs sur l'ensemble du pays. Donc bien sûr, le chiffre est à prendre avec beaucoup de prudence et en même temps, on pourrait dire que le chiffre est suffisamment élevé pour éclairer les choses de manière favorable pour Joe Biden et donc pour notre chère Kamala Harris.
Oui, alors tout ça, sans compter les surprises des dernières minutes, intervention de la Russie, de l'Iran, peut-être arrivée providentielle d'un vaccin contre le Covid, que sais-je. Voilà, on va suivre tout ça dans les heures et les jours qui suivent. En tout cas, vous pouvez également réécouter le podcast de Nouvelles Écoutes qui s'est arrêté du côté de chez Sam, qui a suivi tout le début de la campagne américaine. Alors, vous pouvez retrouver toutes les références dont on parle dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux @quadmeuf, nous laisser des étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à être référencés. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour parler d'Halloween, de mort et de fantômes. Merci, salut Kaoutar.
À bientôt.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Kaoutar Archi.
Mixage Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son, montage et coordination Ashley Tola.